Türkiye'den çıkmayı düşünüyorum.
Je vais essayer de quitter le pays. Je crois que les jours les pires sont à venir. Pour nous, la communauté. Et ensuite, ça sera le tour des autres en Turquie.
Il y avait, à part moi, 27 autres personnes dans ce centre de détention. Toutes accusées d'être membres de cette organisation.
La cousine d'un ami à moi vient juste d'être radiée de l'ordre des médecins parce qu'elle avait fait la première année de ses études dans une université affiliée au mouvement Gulen. C'est un peu une chasse aux sorcières en ce moment.
Cette nuit-là, des chars ont pris position dans les rues d'Istanbul. Une roquette est tirée dans le jardin présidentiel où ne se trouve pas le président Erdogan. Le Parlement est bombardé au moins à 7 reprises par des avions aux mains des putschistes. Cette nuit-là, donc du 15 au 16 juillet, tout va très vite. Le coup d'État en Turquie a débuté en fin de journée quand une fraction de l'armée s'est décidée à prendre le pouvoir. Combien d'hommes ont fait partie du complot ? Aujourd'hui encore, on ne le sait pas. Les autorités turques ont limogé depuis le putsch 45% de leurs généraux, révoqué aussi des milliers de militaires. Mais cette nuit-là, les leaders du complot n'ont réussi à convaincre ni le chef d'état-major des armées, ni le patron de l'armée de terre, ni le commandant de la première armée d'Istanbul. Ils sont restés fidèles au président élu Erdogan depuis Marmaris, où il est en vacances, alors appelle le peuple à descendre dans la rue pour sauver la démocratie. À l'aube, des centaines de militants sont bien au rendez-vous. Le président turc, lui, est rentré à Istanbul dans la nuit. Les putschistes sont arrêtés, la vague de purge va commencer. Dans le collimateur du pouvoir, des milliers de soldats, d'enseignants, de juges, d'hommes d'affaires suspectés d'appartenir à la mouvance de Fethullah Gulen. Ce prédicateur est devenu en 2014 la bête noire du régime. Ce soir du coup d'État, le président turc se félicite d'un événement qui va lui permettre, dit-il, de débarrasser enfin l'armée et la société de ces éléments séditieux. Turquie purge à grande échelle, c'est un reportage signé Eric Biegala. Pour commenter ce magazine, avec nous, ce magazine de la rédaction, ce soir, Didier Billon est en studio. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et vous êtes bien sûr spécialiste de la Turquie. Nous sommes aussi avec Eric Biegala. Bonsoir Eric.
Bonsoir Tara.
Vous rentrez de Turquie, où vous vous êtes donc rendu un bon mois, on peut dire, après le coup d'État avorté du 15 juillet. Depuis cette date, le régime a entrepris, je viens de le dire, des purges à grande échelle. On va en parler ce soir. Ces attaques vise essentiellement, mais pas seulement, le mouvement guléniste.
Oui, la purge a très très vite visé bien au-delà des militaires arrêtés en flagrance dans la nuit du 15 au 16 juillet. Des juges, des policiers, des enseignants, des fonctionnaires ont été visés. Et puis tous ceux qui ont ou ont eu une relation quelconque avec la Cemaat, la communauté de l'imam Fethullah Gulen. Une communauté aujourd'hui présentée dans son entier comme une organisation terroriste. Et ça fait du monde, beaucoup de monde en Turquie. La Cemaat, que ses affidés appellent aussi le mouvement Hizmet, ou service, est censée avoir contrôlé non seulement des fonctionnaires, mais aussi des centaines d'entreprises, des banques, principalement la banque Asia, aujourd'hui saisie par l'État, des associations et surtout des écoles, plus de 1000 établissements dans le pays, du primaire au lycée et 21 universités.
Alors dans ce reportage, Eric, vous avez rencontré des victimes de ces purges qui sont des médecins, des juges, des enseignants.
Et la première victime de cette purge que nous avons pu rencontrer est un universitaire. Il nous a donné rendez-vous sur la rive asiatique du Bosphore, près de la mosquée du Skudar.
Alors on va l'entendre, il a accepté de vous raconter son histoire sans donner son vrai nom.
Bon alors, comment est-ce qu'on peut vous appeler ? Mehmet ?
Ok, Mehmet.
Ok, oui, si on veut Mehmet, ça va bien. Je suis maître de conférence de langue anglaise dans une université privée. J'enseigne également la littérature anglaise. Et puis on a fermé cette université Fatih. Et nous avons été licenciés. On est au chômage.
Et vous ne pouvez pas retrouver un poste dans une autre université ?
Certains collègues étaient partis dans d'autres universités avant l'été. Mais après le coup d'État, ils en ont aussi été licenciés. Même les collègues étrangers, licenciés. Simplement parce qu'ils avaient enseigné à l'université Fatih. C'était une université privée, mais liée au mouvement Hizmet. Le problème, c'est que même les simples cours de langue ont reçu la consigne de ne pas employer de professeurs ayant travaillé dans ces établissements fermés. Les compétences n'ont rien à voir là-dedans. Si on sait que vous avez enseigné dans de telles institutions, vous ne pouvez plus être embauché. Nulle part. Et ça va plus loin. J'ai des centaines de livres. J'ai des amis libraires qui ont reçu la consigne de ne plus vendre le moindre ouvrage publié par telle ou telle maison d'édition. Des gens sont arrêtés parce qu'ils détiennent des livres publiés par ces éditeurs que le gouvernement réprouve. Les gens ont jeté leurs livres à la poubelle. Moi, je les ai donnés à une boulangerie de mon quartier et je leur ai demandé de les brûler dans le four à pain. Plus d'une centaine de livres, 3 ou 4 cartons. Ils avaient été publiés par l'un ou l'autre éditeur associé avec le mouvement Izmet. C'est ça l'épreuve qu'ils ont. Si vous possédez un de ces livres, vous pouvez être arrêté. En fait, je ne cherche pas de travail actuellement. J'ai quelques économies financières.
Ces économies, elles n'étaient pas chez Asia Bank, j'espère.
La plupart de mon argent était là. Je ne peux pas y toucher.
Une somme importante ?
Assez importante. J'économisais pour acheter une maison. Et je ne peux plus toucher à ces fonds. Je ne peux plus faire de chèques. Et on n'a aucune explication. Rien qui nous dise quand on pourra utiliser ces fonds. Par chance, j'avais d'autres comptes, dans d'autres banques, donc je peux encore en vivre. Mais je crains d'être catalogué comme terroriste, parce que j'ai travaillé à l'université de Fatih et que j'avais un compte à Banque Asia.
Alors, vous ne vous cachez pas, mais...
Je ne me cache pas, mais j'ai peur de mes voisins. Ils sont assez radicaux sur ces sujets. Ils savent que je ne soutiens pas le parti au pouvoir. Avant, j'avais des discussions sympas avec eux. Mais maintenant, ils ne me regardent même plus. Quand ils me voient, ils détournent le regard avec une sorte de haine répulsive. Un voisin a menacé de me dénoncer aux autorités.
Vous ne vous cachez pas, mais vous êtes prudent.
Oui, prudent. Il faut faire attention à ce qu'on dit. En fait, ce que je fais actuellement, parler à un journaliste français, c'est assez risqué. Pensez que si les journalistes ici peuvent être arrêtés et disparaître simplement pour avoir fait leur travail, pourquoi ne devrais-je pas éviter les situations risquées ? Les gens ont peur. Ils sont assez angoissés.
La seconde victime de cette purge que nous rencontrons est probablement un cadre de la Jemat, de la communauté Gulen, même s'il ne le reconnaîtra pas. Il déploie en tout cas des trésors d'ingéniosité pour nous rencontrer discrètement. Rendez-vous est pris dans une lointaine banlieue d'Istanbul, à Esenyurt. Une heure de métro et de bus pour y aller. Nous communiquons par messagerie cryptée pour fixer le lieu de rendez-vous, un bâtiment qui tient de l'immeuble de rapport et du centre commercial, où s'étagent boutiques à moitié vides et bureaux. Il nous demande d'aller d'abord au premier étage du bâtiment A, puis au 7e étage du bâtiment B. Et c'est finalement dans l'ascenseur qu'il nous rejoint.
Ici, c'est un bureau d'amis à moi, mais ils préfèrent qu'on n'aille pas chez eux. Alors on va discuter ailleurs.
Le nom qu'il nous donne, Mesut, est également un nom d'emprunt.
Je travaillais dans une ONG médicale. J'en étais le directeur. Et juste après le coup du 15 juillet, l'ONG a été fermée et l'État a tout embarqué ou saisi, les bâtiments, le mobilier, tout. Et je me retrouve sans emploi. Ils sont arrivés et ils ont fermé l'endroit, sans qu'il y ait eu d'enquête, sans procès, sans même un ordre d'une cour de justice, sans rien. Et il y a au moins 1200 associations comme ça, ONG réputées, proches du mouvement Izmet, qui ont pareillement été fermées après le coup d'État du 15 juillet.
Et combien de personnes travaillaient dans votre ONG ?
On était trois permanents salariés à plein temps et une cinquantaine de personnes travaillaient pour nous occasionnellement. L'un des cadres a réussi, je crois, à quitter le pays, mais tous les autres ont peur, peur d'être arrêtés.
Vous avez peur vous-même ?
Bien sûr, chaque jour, tous les jours, je crains d'être arrêté. Et puis ma femme, qui était fonctionnaire dans l'éducation nationale, dans le public, a été suspendue.
Pour quelle raison ?
Parce que pendant une très courte période, elle a été affiliée à un syndicat qui est lui-même proche de la Cemaat, de la communauté. Même si elle en était sortie depuis des mois de ce syndicat, elle a quand même été suspendue.
Vous avez perdu votre emploi, votre femme a été suspendue.
Mon frère, il a été arrêté officiellement hier, mais ça faisait 14 jours qu'il était détenu dans un poste de police en province. Mon frère était enseignant lui aussi, mais dans une école préparatoire aux universités. Cette prépa avait déjà été fermée il y a un an et demi. Il avait été interrogé par la police il y a encore 4 ou 5 mois et lui ont reproché simplement d'avoir travaillé pour cette prépa qui était elle aussi considérée comme proche de Fethullah Gulen. Même si Gulen n'a personnellement rien à voir avec ces établissements.
Vous-même, vous vous cachez pour éviter l'arrestation ?
Tout ça fait peur. On est assez anxieux. Parfois, j'évite de rester chez moi, surtout à certaines heures, de peur d'une arrestation. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est la société, les gens. Parce qu'ils ont manipulé les gens. Il y a des campagnes de haine contre la Cemaat, des campagnes encourageant le lynchage. Et qui sait si un jour la foule ne va pas venir caillasser l'appartement ou nous tuer ? Psychologiquement, c'est ce qu'il y a de plus dur. Vous savez, en Turquie, il y a des milliers de gens qui ont une mentalité à la Daesh, qu'ils peuvent obéir à des injonctions du genre « La Cemaat, ce sont des apostats, on peut les tuer, on peut violer leurs femmes, etc. » C'est de ça que j'ai peur, moi, de la foule. Et de ce point de vue-là, peut-être est-il plus sûr de se retrouver en prison.
Qu'est-ce que vous pensez faire dans l'avenir proche ?
Je vais essayer de quitter le pays. Je crois que les jours les pires sont à venir. Premièrement, pour nous, la communauté. Et ensuite, ça sera le tour des autres en Turquie. Les jours les pires sont à venir. Et moi, je veux préserver la vie de mes enfants et des miens. Je cherche un moyen de partir. Mon passeport et celui de ma femme ont été invalidés. J'essaye de trouver un moyen de sortir.
Les mises à pied de fonctionnaires ou d'employés d'institutions considérées comme proches de la communauté Gulen se comptent déjà en dizaines de milliers. Mais les mises en détention se multiplient également, au point qu'un décret, paru le 17 août, a autorisé la libération conditionnelle express de 37 000 détenus dans le pays, histoire de libérer de la place pour ceux que la presse turque appelle les conspirateurs de Fethullah Gulen. C'est à Umraniye, autre quartier d'Istanbul sur la rive asiatique du Bosphore, que nous rencontrons notre troisième victime de ces purges. Elle nous reçoit dans son petit appartement.
Je suis fonctionnaire d'État. Je suis née en 1975. J'ai fait l'université. J'ai deux enfants de 7 et 17 ans. Et je préfère ne pas donner de nom. Le 15 juillet, on était ici. On est resté toute la nuit à prier dans la maison. Deux jours après, le 17, nous étions en famille à Konya pour le mariage du frère de mon mari. Quand on a appris que les écoles de nos enfants, considérées comme proches de la communauté, allaient être fermées. Le 22, mon mari est rentré à Istanbul. Il fallait réinscrire les enfants dans d'autres écoles pour la rentrée. Le même jour, mon mari et moi avons tous les deux reçu un coup de téléphone de nos directeurs respectifs, nous annonçant que nous étions suspendus. Mon mari était prof d'histoire dans un lycée public et moi fonctionnaire. J'ai appris par les voisins qu'il avait été arrêté après un raid de la police, ici, dans notre appartement dans la nuit du 22 au 23. Et le 24, j'ai reçu un appel de la police me disant qu'il était en garde à vue.
Vous savez pour quelle raison cette garde à vue ?
En
2008, mon mari avait travaillé pour une de ces écoles préparatoires de la Cemaat, la communauté. Mais il en était parti et enseignait dans un lycée public depuis 2012. J'ai immédiatement pensé que ça devait être la raison, parce qu'il avait travaillé pour cette prépa.
Donc ni vous, ni lui, ni personne dans la famille n'avait de relation directe avec la communauté, si ce n'est que vos enfants étaient dans des écoles et que votre mari avait travaillé il y a 8-10 ans pour une prépa, toute affiliée à la communauté, c'est ça ?
C'est ça. Pendant l'arrestation, mon mari a fait une crise. Il est diabétique. Une voisine qui a vu la scène m'a dit que les policiers lui ont donné du sucre, puis fait une injection d'insuline alors qu'il était menotté, mais qu'il l'avait emmené sans ses médicaments au commissariat. 4 jours plus tard, j'ai appelé le commissariat et demandé à pouvoir lui amener vêtements et médicaments. On m'a dit oui. Mais pas question de le voir. J'ai laissé les médicaments aux fonctionnaires de police. Le vendredi matin, j'étais partie en voiture pour réinscrire mes enfants dans une nouvelle école. Je reçois un appel de la police à 9h06. Ils me disent qu'il y a une urgence, que mon mari est à l'hôpital d'Asaké et qu'il faut que j'y aille. J'étais coincée dans les embouteillages sur le pont du Bosphore et à 11h, je reçois un autre coup de téléphone de la police me disant qu'il faut que j'aille non plus à l'hôpital, mais à l'Institut médico-légal.
C'est comme ça que vous avez appris que votre mari...
J'ai compris que quelque chose s'était passé. Je priais pour que ce soit une erreur, mais j'ai compris qu'il était mort. À l'Institut médico-légal, sur le formulaire près de son corps, il était écrit « heure du décès, 6 heures du matin ». Quand ils m'ont appelé à 9 heures, il était déjà mort depuis 3 heures. Il y a eu une autopsie, mais je ne peux pas avoir les résultats avant 3 mois. Les gens de l'Institut médico-légal ont d'abord refusé de me donner le corps pour l'enterrer, me disant que s'il devait être enterré à Istanbul, ce serait dans le cimetière des traîtres. On a choisi de l'inhumer à Konya, où on a encore de la famille. Ils nous ont alors permis de l'emporter, mais sans le corbillard, ni les produits pour conserver le corps durant le trajet. On a dû le transporter dans la voiture de mon frère. Et à Konya, la municipalité a même refusé de nous allouer la pelleteuse pour creuser la tombe.
Les conditions de détention des personnes arrêtées sont manifestement très dures pour celles soupçonnées de collusion avec la communauté Gulen. La journaliste Touba Tekerek vient de sortir de 24 heures de garde à vue. Elle avait été arrêtée en pleine rue à Istanbul après avoir pris une photo d'une micro-manifestation près d'un commissariat. Vous avez passé une nuit dans un centre de détention avec d'autres femmes qui étaient toutes soupçonnées d'appartenir à cette organisation terroriste de Fethullah, c'est ça ?
Oui, il y avait, à part moi, 27 autres personnes dans ce centre de détention. Une seule était accusée d'autre chose, sinon les 26 étaient toutes accusées d'être membres de cette organisation. Et sur les 26, 24 étaient des employés de cours de justice ou de greffe des tribunaux.
Et vous étiez 28 dans une seule cellule.
Oui. Et l'endroit était prévu pour 4 ou 5 personnes pour y dormir. Et on était 28. Donc seulement 4 ou 5 personnes étaient sur des espèces de lits, mais toutes les autres étaient sur le sol, sur des couvertures. Et elles n'avaient même pas la place d'étendre leurs jambes. Elles n'avaient pas de quoi s'allonger par terre. C'était bourré. Elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas pu voir leurs avocats, ni parler avec leur famille. La plupart étaient là depuis une semaine, dont une femme, enceinte de 8 mois. L'une d'elles m'a dit qu'elle n'avait strictement rien à voir avec l'organisation de Gulen, mais qu'elle possédait simplement la carte de crédit d'une banque considérée comme liée à cette organisation et que ce devait être la raison de sa présence là. Une autre m'a dit qu'elle avait travaillé il y a 7 ans dans une école considérée comme affiliée à cette organisation. Et c'est peut-être pour ça qu'elle était là. Vous vous retrouvez là, dans cette petite boîte. Il fait très chaud. Il n'y a pas d'air, au milieu de nulle part, sans contact avec l'extérieur. C'était horrible.
Si les conditions de détention sont particulièrement dures, les droits des personnes arrêtées et soupçonnées d'affiliation à la Jemat sont également restreints, expliquent Semra et Elkan Albayrak, un couple d'avocats du barreau d'Istanbul.
Ils ont complètement restreint nos droits de défenseurs. Avec cette nouvelle législation, ce décret statutaire, comme ils disent, les compétences et les droits des avocats sont restreints. Si vous êtes détenu à cause de vos liens avec la communauté ou accusé de terrorisme, votre nom est entré dans leur système informatisé, vous êtes fiché au département de la police et votre avocat ne peut plus vraiment vous représenter. On se retrouve en audience, on a le droit de s'y exprimer, mais c'est tout. Quand on voit nos clients, une caméra enregistre toutes nos discussions. Et en fait, il y a 2 gardiens en permanence. Un avec l'avocat, l'autre avec la personne détenue. Toutes les notes que l'on peut prendre sont relues par les policiers. On ne peut obtenir la moindre information quant à la santé de nos clients. Les visites des familles aux détenus sont aussi réduites. Les avocats ne peuvent discuter avec leurs clients qu'au bout de 2 semaines.
Et avec cet état d'urgence, quand vous êtes en garde à vue, vous n'avez pas le droit de voir votre avocat pendant les 5 premiers jours. Et tous les livres sont interdits dans les centres de détention, même le Coran.
Métro d'Istanbul, la station de Taksim. On a organisé le long des longs tapis roulants une sorte d'exposition avec toutes les photos de l'agence Anatolie du coup d'État, du coup du 15 juillet. Les endroits qui ont été bombardés, que ce soit la Grande Assemblée nationale turque à Ankara, le pont du Bosphore, où là juste devant moi, l'image assez magnifique, le pont sur le Bosphore qui depuis a été rebaptisé le pont des martyrs du 15 juillet, le pont du Bosphore où les putschistes ont tiré dans la foule. C'est là où il y a eu le plus de morts parmi les civils. Coup d'État qui a quand même fait entre 240 et 275 victimes. Et puis, tous les 4 ou 5 photos, on a ce slogan qui d'ailleurs qu'on voit absolument partout dans Istanbul. Biz milliyetiz Türkiye'ye darbeye terör yedirmeyiz. Nous, la nation turque, ne laisserons jamais la terreur nous diviser ou nous bouffer, puisque c'est un peu argotique comme manière de dire. Et ce panonceau, en fait, on le voit absolument partout. Dans Istanbul, a remplacé pratiquement toutes les publicités, etc. On le voit en grand, 4x3, et là, partout dans le métro. C'est un petit peu le slogan politique du moment. Nous, le peuple, avons contenu la terreur, nous ne laisserons pas les terroristes découper le pays. Ce qui est intéressant dans ce slogan, c'est que, à la fois, les mots terroristes et putschistes, en fait, sont accolés. En l'occurrence, les terroristes
désigne évidemment l'organisation terroriste de Fethullah Gulen, autrement dit la communauté, qui sont unanimement accusés d'être une organisation terroriste.
Le slogan « Nous, le peuple, nous partons en guerre contre l'ennemi intérieur » est d'ailleurs entonné par le président de la République lui-même, Recep Tayyip Erdogan, qui appelle sans vergogne à la délation tous azimuts, notamment lors du meeting monstre du 7 août dernier qui a réuni près d'un million de personnes à Istanbul.
Ma chère nation, nous devons analyser sérieusement cette tentative de coup d'État du 15 juillet en tant que nation et en tant qu'État. Non seulement regarder ceux qui ont trahi, mais aussi ceux qui sont derrière eux, ceux qui les ont aidés. Les membres de l'organisation terroriste de Fethullah, il y a encore des gens qui hésitent à dire qui ils sont. N'hésitez pas, vous qui savez, n'hésitez plus pour que tout le monde les connaisse, pour que tout le monde connaisse les gens de cette organisation terroriste. Ce sont eux qui ont été utilisés par les forces obscures. Ce sont les dupes qui menacent notre pays. Bien sûr, il nous faut trouver tous les membres de cette organisation et les extirper dans un cadre légal. Mais ça ne suffira pas à notre nation. Nous ne serons pas assez puissants si on ne s'occupe que de cela. Nous devons nous renforcer contre ceux qui ont infiltré la police, l'armée, la justice, les hôpitaux et les écoles. L'organisation des traîtres peut être appelée PKK ou FETÖ ou Daesh. Les noms peuvent changer, les membres peuvent changer, les structures peuvent changer, mais il n'y a qu'une chose qu'on ne puisse changer, ils sont tous des ennemis de la nation turque. Au point où nous en sommes aujourd'hui, toutes les positions sont claires. D'un côté, il y a l'État turc, de l'autre côté, et il y a tous ceux qui exploitent religion ou ethnicité.
Bien sûr, tout le monde est aujourd'hui susceptible de dénoncer tout le monde en Turquie. Et la purge touche aussi des gens qui n'ont aucun rapport, aucun très lointain rapport avec la Cemaat, comme Serkan.
I'm a producer. I basically make feature.
Je suis producteur, je fais des longs métrages en coproduction internationale. Là, je travaille sur un projet, une coproduction turco-franco-allemande. Début juillet, j'étais allé en Israël pour le festival du film de Jérusalem. J'étais invité, j'y étais sans problème. Et puis, il y a eu cette tentative de coup d'État. Et récemment, je devais aller au festival de Locarno, et à l'aéroport, on me dit qu'il y a un problème avec mon passeport. Dans le bureau, on me pose quelques questions, ce que je fais dans la vie, mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. Et ils me donnent un papier disant que mon passeport est confisqué, sur la base d'une liste qu'ils avaient. Et on me dit, il faut attendre. Je ne sais pas jusqu'à quand. En pratique, on m'interdit de voyager.
À votre avis, d'où venait le problème ?
Je ne sais pas.
Votre femme, peut-être ?
Ma femme travaille pour une banque qui a été fermée par l'État parce qu'il l'accuse d'avoir financé le terrorisme ou quelque chose comme ça. Ils l'ont même accusée, elle, il y a quelques mois, d'être un soutien du terrorisme, une connerie comme ça.
Je suppose qu'elle travaillait chez Asia Bank.
C'est ça, mais la banque a été fermée. C'est peut-être en rapport avec ça, même si c'est absurde. Elle-même n'a pas de restrictions de voyage et moi, je suis marié avec elle. Mais bon, c'est vrai, ces choses-là arrivent. Il y a une demi-heure, la cousine d'un ami à moi vient juste d'être radiée de l'ordre des médecins. Elle est docteur, mais elle avait un vague rapport avec ce mouvement Gulen parce qu'elle avait fait la première année ou les deux premières années de ses études dans une université affiliée au mouvement. Et d'abord, ils lui ont interdit de continuer à travailler et là, ils viennent de lui retirer sa licence. Elle ne peut plus exercer comme médecin. C'est un peu une chasse aux sorcières en ce moment. C'est vraiment bizarre.
Nous nous trouvons à Istanbul devant l'énorme Istanbul Adalet Saray, l'énorme palais de justice. Et on attend la sortie éventuelle d'Eren Keskin, l'une des figures de proue du mouvement des droits de l'homme en Turquie, ancienne présidente de l'Association des droits de l'homme, extrêmement connue depuis les années 80, au moins autant pour sa mise très élégante, qui rappelle beaucoup les photos de mode des années 60. Elle porte des hauts talons, une coiffure en choucroute très souvent, extrêmement connue en Turquie et qui est toujours très très active dans tout ce qui concerne un petit peu les droits fondamentaux, la défense des droits fondamentaux en Turquie, qu'il s'agisse des partis politiques, des Kurdes, des Arméniens, etc. Eren Keskin est venu présenter une déposition auprès du parquet après que son appartement ait été fouillé par la police la semaine dernière. Et apparemment, elle est accusée de complicité de terrorisme. Et là, la plupart des gens qui sont avec elle, qui font partie de cette association des droits de l'homme, qu'on appelle ici IHD, attendent de savoir si elle va pouvoir sortir libre, éventuellement sous contrôle judiciaire, ou simplement si elle risque d'être incarcérée. On vient de l'apprendre, Eren Keskin ne sera donc pas détenue. Elle devrait être relâchée, sortir du palais de justice d'ici quelques minutes.
Je suis très contente d'être ressortie libre. Ça fait 30 ans que je suis impliquée dans la défense des droits fondamentaux et jamais je n'avais ressenti une telle pression dans le pays. Quand ils m'ont accusée de terrorisme ou de vouloir diviser le pays, je ne pouvais pas y croire, moi qui suis une activiste du pacifisme. Et comme ils ont déjà détenu la romancière et militante des droits de l'homme, Aslı Erdoğan, ils auraient dû m'arrêter également. Je suis très surprise et très contente d'être dehors.
Vous êtes complètement libre ?
Je suis interdite de sortie du pays et sous contrôle judiciaire. Je suis obligée de pointer au commissariat une fois par semaine.
Comment décririez-vous la situation générale du pays, ces arrestations massives, les Kurdes, les libéraux, les gulenistes ?
Pour nous, rien n'a changé. Il y a toujours eu dans le pays des actions contre les démocrates ou les défenseurs des droits. La grande différence aujourd'hui, c'est qu'il y a un combat intense à l'intérieur même de l'appareil d'État. Avant, les gulenistes et l'AKP d'Erdoğan étaient alliés contre les militaires. C'était le temps des procès Ergenekon, etc. Aujourd'hui, c'est l'armée et l'AKP contre les gulenistes. Ils s'en prennent toujours à nous ou aux gauchistes, mais c'est une manière de cacher leur implication dans cette sorte de guerre intestine dans l'appareil d'État.
La purge ratisse large, particulièrement les gulenistes et leurs proches. Tout le monde se dit convaincu que les affidés de la Cemaat sont bien les traîtres voués aux gémonies par le pouvoir. Un sondage d'opinion effectué 10 jours après la tentative de putsch donnait 2/3 des Turcs convaincus de la responsabilité de la communauté gulen dans le coup d'État. Et pourtant, celui-ci a été le fait de militaires, de soldats. Alors l'armée comptait des gulenistes dans ses rangs, c'est vrai, mais s'agit-il pour autant des auteurs du putsch ? Difficile à dire. Même pour Gareth Jenkins, analyste à l'Institute for Security and Development Policy, est l'un des meilleurs connaisseurs de l'armée turque.
Gulen encourage ses fidèles à intégrer la fonction publique et l'appareil d'État turc depuis longtemps. Et ils ont commencé à essayer d'infiltrer l'armée à la fin des années 80, début des années 90. Les militaires s'en sont vite aperçus et ont commencé à purger leurs rangs, souvent de manière assez brutale. Mais quand l'AKP d'Erdoğan est arrivé au pouvoir en 2002, Le nouveau gouvernement a clairement signifié aux militaires que l'heure n'était plus à ces évictions d'officiers soi-disant convaincus d'activisme islamique. Qui plus est, à partir d'août 2002, le poste de chef d'état-major des armées a été détenu par le général Hilmi Özkök, un homme particulièrement pieux. La combinaison de ces deux facteurs a entraîné une sévère diminution des purges dans l'armée. C'est à ce moment-là qu'on a eu davantage de gulenistes chez les militaires. Cet entrisme dans l'armée n'a vraiment commencé qu'il y a une quinzaine d'années seulement. Ça veut dire que ces soldats, aujourd'hui, n'occupent que des grades subalternes. Et quand on regarde le nombre d'officiers supérieurs mis à pied, soit 45% des généraux, il y a quelque chose qui ne va pas. En aucune manière, le mouvement de Gulen n'a pu contrôler 45% des généraux du pays, des généraux qui étaient pour la plupart entrés dans l'armée dans les années 70. C'est-à-dire bien avant que Gulen ait commencé à infiltrer leur rang. Il y a une incompatibilité manifeste entre la proportion de gulenistes dans l'armée, tous à des rangs subalternes, et la très forte proportion d'officiers supérieurs purgés. En fait, il me semble que l'AKP et Erdogan ne sont pas en train de purger l'armée de ces éléments gulenistes. Ils purgent l'armée de tous ceux qu'ils n'aiment pas.
Et qu'en est-il du coup d'État lui-même? Croyez-vous que les gulenistes aient pu y être mêlés d'une manière ou d'une autre?
C'est possible, mais on n'en a aucune preuve. Quand on regarde les soldats qui ont effectivement participé au coup d'État, ils étaient très peu. On parle d'environ 2000 hommes. C'était totalement insuffisant pour prendre le pays. Beaucoup ne sont absolument pas des gulenistes. Il y a eu des confessions de certains de ces putschistes qui ont fuité dans les médias, des confessions à prendre avec des pincettes car tous ont été torturés ou plus ou moins maltraités. Mais la plupart de ceux qui admettent avoir participé à la tentative de putsch disent qu'ils ne sont pas des soutiens de Gulen et qu'ils croyaient obéir à leur commandement en chef. Quant aux rares qui ont confessé être des gulenistes, aucun n'a admis avoir pris part à l'organisation du coup d'État. Il manque encore pas mal de pièces au puzzle, en fait. Et tant qu'on ne les a pas, c'est difficile de dire qui a fait le coup et qui ne l'a pas fait. La seule chose sûre aujourd'hui, c'est qu'Erdogan et son gouvernement n'ont pas non plus la réponse à cette question. Ils en rajoutent tellement pour accuser le mouvement Gulen que s'ils avaient eu la moindre preuve de son implication, ils l'auraient déjà rendu public. Manifestement, ils ne savent pas qui a fait le coup.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Turquie purge à grande échelle. C'était un reportage d'Éric Biegala réalisé par Annie Brault. Et nous sommes toujours ici en studio avec Éric et puis avec Didier Billon qui est spécialiste de la Turquie, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Alors on a bien entendu dans le reportage d'Éric Biegala que ce sont des membres de ce réseau, la Cemaat, le réseau de Fethullah Gulen qui sont visés par ces purges ou alors des gens qui sont censés avoir des relations étroites avec cette confrérie. On va peut-être revenir d'abord sur cette communauté, finalement, et sur la figure même de Gulen, qui est exilé aux États-Unis depuis la fin des années 90, depuis 99. Il avait quand même des liens étroits, je pense, avec le pouvoir turc avant, et puis quels sont ses liens ensuite avec Erdogan? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de lui?
Oui, le mouvement Hizmet, c'est-à-dire ce mouvement qui se rattache à Fethullah Gulen, en réalité, se cristallise à la fin des années 70, début des années 80. Mais à l'époque, c'est un tout petit groupe. Fethullah Gulen est un imam qui se rattache à l'école des Nourdjou. C'est une confrérie. Ce qui le distingue, à mon avis, pour aller à l'essentiel, de ce que nous appelons les confréries. Et nous savons que dans les islams en Turquie, les confréries ont un rôle tout à fait important pour des raisons liées à la longue histoire. C'est d'ailleurs une des grandes différences de l'islam turc par rapport à l'islam dans le monde arabe, par exemple. Ce mouvement Hizmet, je pense qu'il vaut mieux l'appeler communauté, comme c'est très bien fait dans le reportage, pour une raison qui est absolument essentielle. Les confréries, quelles qu'elles soient, il y en a de nombreuses, se rattachent au passé ottoman et ont en quelque sorte la volonté de reproduire le fonctionnement social de ce qui existait dans l'Empire ottoman. C'est évidemment, probablement, sans faire de mauvais jeu de mots, un vœu pieux. La différence de Gulen, c'est que lui se projette, dès le départ, dès les années 80, se projette dans l'avenir. Donc ce n'est pas une confrérie au sens historique, au sens classique du terme. Cette projection vers l'avenir, dans l'avenir, c'est sur un projet fondamental, je me hasarde à le résumer en une phrase, créer un homme nouveau. Créer un homme nouveau, pour ce faire, il faut attacher une très grande importance à l'éducation. Et les gulenistes l'ont bien prouvé, il y a cette volonté de se doter d'un appareil critique, de se cultiver, non seulement sur l'islam, mais sur les sciences, sur les techniques et technologies modernes. Mmh. C'est une différence tout à fait essentielle.
Éric parlait tout à l'heure de 1000 écoles. Il a eu aussi un rôle très important, enfin, cette communauté a un rôle très important dans tout ce qui est prépa, enfin, enseignement supérieur.
Mais non seulement en Turquie, et on avait ce qu'on appelle les ders hané, c'est-à-dire des cours de préparation, des cours complémentaires, parce que l'éducation publique en Turquie n'est pas toujours de la meilleure des qualités. Et puis pour préparer les concours, les parents pouvaient choisir d'envoyer leurs enfants, dont tout le monde se reconnaissait d'ailleurs à admettre que ces écoles étaient de très bonne qualité. Mais ce qui est aussi très important, c'est que Gulen très rapidement s'est projeté à l'international, et que nous, notamment dans un premier temps en Asie centrale, et qu'il a construit, créé de très nombreuses écoles, collèges, lycées, non seulement bien sûr en Asie centrale, mais aussi plus récemment dans le monde arabe, plus récemment aussi en Afrique subsaharienne. Donc nous avons une organisation de type international, c'est-à-dire que peu à peu, parce que justement ce sont des hommes formés, ce sont des hommes qui ont été capables de prendre des initiatives sans pour autant qu'il y ait une sorte de Deus ex machina qui dirigerait tout, en l'occurrence de Pennsylvanie, État des États-Unis, où il se trouve depuis 1999. Mais en tout cas, le petit problème, et ça c'est une des faiblesses de Gulen qui lui coûte très cher aujourd'hui, indépendamment du degré de responsabilité des gulenistes, éventuellement nous y reviendrons dans cette tentative de coup d'État, c'est que les gulenistes ont toujours eu un culte du secret. Alors, éventuellement, on peut le comprendre à l'époque kémaliste pure et dure, si je puis dire, sauf que c'est une organisation assez obscure. Et évidemment, toute organisation obscure, mais nous pourrions penser, sans vouloir faire de comparaison idiote, les francs-maçons, l'Opus Dei, etc., suscite beaucoup de fantasmes. Et c'est autant de faiblesses par rapport aux accusations dont ils sont aujourd'hui les victimes.
Oui, Éric Bliégala, si Gulen est parti à un moment donné, dans les années 90, en 99, c'était en raison des kémalistes, enfin à l'époque...
Oui, alors à cette époque-là, on avait eu un coup d'État qu'on a appelé postmoderne en Turquie. C'était en février 97. Le Conseil de sécurité nationale, qui réunit les principaux généraux du pays, demande en fait au Premier ministre, qui était un islamiste, le premier islamiste, Necmettin Erbakan, de prendre un certain nombre de mesures, essaye de lui imposer un certain nombre de mesures. Pendant quelques mois, en fait, le gouvernement tergiverse, et puis finalement, Erbakan jette l'éponge au mois de juin. Enfin, donc ça a duré 4-5 mois. On a appelé ça le coup d'État postmoderne. Et dans la foulée de ce coup d'État postmoderne, les militaires essayent de faire un petit peu la chasse à tout ce qui peut ressembler à de l'islam politique. Et Fethullah Gulen fait partie des objectifs à atteindre. Il faut pouvoir le mettre en prison, etc. Et finalement, il passe un petit peu au travers des mailles du filet. Les procureurs de l'époque n'arrivent pas véritablement à l'inculper et à le mettre en prison. Il part aux États-Unis pour y subir une opération, si mes souvenirs sont bons, fin 1998. Et finalement, il décide de rester en Pennsylvanie. Et il n'en a plus bougé depuis. Il est en Pennsylvanie depuis 1999. Et il a donc une carte verte, une permission de travailler depuis 2004.
Il est hébergé par les Américains. Mais ça ne l'a pas empêché de noyauter, c'est ce qu'on disait, quand même pas mal d'institutions en Turquie depuis son exil.
Mais oui, parce que c'est le projet fondamental. Il s'agit de former un homme nouveau. Il considérait dans un contexte kémaliste, avec un État fort, puissant, avec une récurrence des coups d'État, postmoderne ou pas. Et donc, il y a une volonté aussi de s'insérer, d'investir l'appareil d'État. Ce qu'on peut leur reprocher, par ailleurs. Mais c'est toujours avec un projet de société. J'allais dire un projet politique. Mais la grande différence...
C'est pas un projet religieux.
Non. Oui. Bon, alors bien sûr, ce sont des musulmans. Mais par ailleurs, nous savons que Fethullah Gulen, depuis de très nombreuses années, est un très fervent partisan du dialogue interreligieux, par exemple. Donc il s'assume comme musulman, mais un musulman éclairé. En tout cas, les gulenistes se présentent ainsi, sensibles au dialogue avec les autres religions. Ça, c'est incontestable, y compris même en France. Alors, bien sûr, on nous explique toujours que Fethullah Gulen a rencontré le pape. Alors, on a les photos. Bon, c'est un fait. Je ne suis pas sûr qu'il faille en tirer des conclusions plus importantes que le fait même de l'avoir rencontré, ce pape.
Question d'Éric Biegala.
Alors, effectivement, cette communauté, elle a un petit peu innervé l'appareil d'État. Elle est un peu différente à l'étranger, où elle est quand même très, très bien représentée. Hein. On parle de 3000 établissements d'éducation, 1000 en Turquie, mais 3000 à l'étranger. Mmh. On a mentionné tout à l'heure, effectivement, l'Asie centrale, l'Afrique, etc. Beaucoup en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, énormément de lycées. Et là, dans ces écoles, ce ne sont pas des écoles religieuses, ce ne sont pas des écoles musulmanes. La majorité d'ailleurs des élèves en France par exemple ou aux États-Unis ne sont pas des musulmans. Mais c'est assez différent en Turquie même, où là on a un certain rigorisme religieux qui est de mise. Et il y a quand même un certain islamisme dans leur manière de faire, manière d'être.
Est-il un conservateur islamiste ?
Il est un conservateur, ouais. Clairement, parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre ce qui se passe en Turquie même, où les écoles de Fethullah Gulen ont bonne réputation, ou avaient bonne réputation en tout cas, mais leurs cours étaient de qualité, mais il y avait, outre les cours de différentes disciplines, une sorte de rigueur morale qui était systématiquement enseignée, une sorte d'ordre moral. Ça, c'est incontestable. En ce sens, on peut considérer que ce sont des conservateurs. Sur les écoles de Fethullah Gulen à l'étranger, je pense qu'il faut bien comprendre que le parti au pouvoir, l'AKP, le parti de M. Erdogan, à un moment donné où il marchait main dans la main, s'en est servi comme une sorte d'instrument de soft power, pour parler en bon français. C'est-à-dire que ces écoles avaient une véritable aura, parce que de bonne qualité, et souvent dans des pays où, au contraire, l'éducation n'était pas toujours de la meilleure des qualités, et que à l'époque où tout fonctionnait bien entre Gulen et Erdogan, il y avait cette volonté de se servir de ces écoles comme une sorte de présentation des réalisations, des progrès de la Turquie
tournée vers l'avenir.
Absolument. Donc, en ce sens, il faut bien comprendre qu'ils n'avaient pas tout à fait la même fonction. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que dans bon nombre de pays, notamment en Afrique subsaharienne, les autorités politiques turques font des pieds et des mains pour demander aux autorités locales de fermer ces lycées, ces écoles, ces collèges. Et que bien souvent, alors il faut voir selon les pays, puis on verra bien dans les semaines à venir, les autorités locales le refusent. Parce que, bien souvent, les enfants des élites, dites élites locales, vont dans ces écoles, pas uniquement. Donc, il y a un rapport très compliqué et les choses ne sont jamais en noir et blanc, bien évidemment. Alors, de là, les accusés de terrorisme, évidemment, à faire n'est pas à franchir. Je pense que le reportage, de ce point de vue, est assez clair.
Bah, justement, il faut qu'on parle de cette brouille, quand même, entre Fethullah Gulen et Erdogan, parce que longtemps, ils ont presque collaboré, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, l'AKP s'est appuyé sur la communauté, notamment en ce qui concernait l'armée quand même, dans laquelle, enfin vous allez me dire ce que vous en pensez, dans laquelle la communauté, enfin en tout cas les gulenistes sont assez importants.
Non mais clairement, là aussi il faut replacer dans le contexte, quand l'AKP, le parti de la justice et du développement, parvient au pouvoir, nous sommes en 2002. Ce parti factuellement s'est créé l'année précédente en 2001. Ils sont même surpris de leur succès lors des premières législatives où ils sont élus. Ils ont 34% des voix et plus de 60% des sièges au Parlement en fonction d'une loi électorale dont ils ne sont d'ailleurs pas responsables, mais qui est totalement inique et injuste. En tout cas, ils sont donc majoritaires au Parlement. Ils peuvent former un gouvernement homogène. Ils ont un problème, c'est qu'ils manquent cruellement de cadres politiques. Et c'est là qu'arrivent les gulenistes, c'est qu'eux, pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, sont des hommes, des femmes, plus rarement quand même, il faut bien le souligner, qui sont des gens formés, qui sont donc utiles à l'AKP. Donc, Et donc, il y a une sorte d'aide mutuelle. L'AKP utilise les gulenistes comme cadre politique pour les aider, non pas à conquérir le pouvoir, mais à se maintenir au pouvoir et à l'investir. C'est pourquoi ils nomment un certain nombre de cadres, ils le savent très bien. Tout le monde a été étonné après le 15 juillet des listes de gulenistes qui sortaient Alors, c'est jamais de très bon ton qu'un pays ait des listes de suspects ou d'opposants. Évidemment, ça nous fait peur. Mais pourquoi ont-ils utilisé ces listes si rapidement? Mais parce qu'ils les connaissaient parfaitement, puisque c'est l'AKP qui les avait nommés en grande partie.
Ou qui avait laissé leur nomination se faire.
Enfin, absolument. Ouais. Et donc, on voit bien que, outre l'éducation nationale, pour les raisons évoquées, il y a deux autres ministères où, clairement, les gulenistes ont pris véritablement d'importants postes de responsabilité. C'est la police, le ministère de l'Intérieur et la justice. Et alors, dans les années 2007-2008, série de procès contre l'armée. Mais ce sont les magistrats gulenistes qui sont à l'œuvre. Erdogan laisse faire. Il faut tout faire pour affaiblir ce qui représente l'institution kémaliste par excellence. Sauf que pour des raisons sur lesquelles on ne peut pas entrer dans les détails, il y a une lutte de pouvoir qui s'instaure. Et peu à peu, les gulenistes prennent de l'assurance. Et à l'orée des années 2010, on commence, pour ceux qui suivent en détail l'actualité en Turquie, à sentir des divergences. Ouais. Et puis arrive 2013, où là, il y a les affaires de corruption qui sont mises sur la... Enfin, de corruption. De l'entourage de Erdogan qui sont mis sur la place publique. Ouais. Et là, c'est le début de la chasse à courre contre
Effectivement, les Erdogan, à ce moment-là, soupçonne Gulen d'être à l'origine de ce scandale, quoi, de ces révélations.
Alors, on a plusieurs procès, effectivement, c'est en décembre 2013. On a plusieurs procès ou actions en justice, en tout cas, qui sont intentés contre des ministres du gouvernement Erdogan. Il n'est pas encore président à l'époque. Ça touche les fils des ministres, son propre fils est mouillé là-dedans. Deux ministres sont forcés, dans un premier temps, de démissionner. Un troisième vient après. Tout ça ne part pas, on ne sait pas très bien quels sont les faits, les véritables affaires de corruption, on ne sait pas s'il y avait véritablement... C'est tout à fait possible. Mais ce qu'on sait, de manière assez claire, c'est que les procureurs et les juges qui ont conduit ces procès étaient des gulenistes. Et ça, Erdogan ne peut absolument pas leur pardonner. Et c'est à partir de la fin 2013, surtout début 2014, qu'on commence à voir le coup de balai de l'autre côté, et c'est notamment dans le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur qu'on commence à avoir des purges, c'est-à-dire des juges qui sont mis à pied, et même incarcérés,
des policiers par milliers.
Oui, oui. Oui.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'effectivement les gulenistes, enfin là tout à l'heure un des interlocuteurs de Eric le mettait en doute, sont à l'origine du coup d'État, parce que c'est ce que dit aujourd'hui le pouvoir turc?
Bah pour l'instant, et c'est très bien rendu, c'est que nous n'avons pas de preuves qu'il y a un flou entretenu. Alors, un des interlocuteurs explique que le pouvoir lui-même n'a peut-être pas les preuves, probablement, parce que s'il les avait, il les aurait fait connaître. Ça me paraît assez évident. Donc, il y a une accusation qui est proférée contre les gulenistes. Je veux bien, pour ma part, admettre, mais j'aimerais mieux avoir quand même des preuves, qu'il y ait des éléments liés à Gulen qui aient pu participer au coup d'État. C'est très probable, ça, je n'en disconviens pas. Je ne pense pas, d'une part, qu'ils étaient capables d'initier cette tentative de coup d'État, dont au passage, même s'il a fait près de 300 morts, même si le Parlement a été bombardé, a fait quand même preuve de beaucoup d'amateurisme. Donc les responsables de ce putsch, de cette tentative de coup d'État, même si partie d'entre eux étaient gulenistes, n'avaient visiblement pas une bonne appréciation des rapports de force qui existaient au sein de l'armée, parce qu'ils ont sûrement cru qu'il pouvait entraîner une partie significative de l'état-major. Échec total, erreur d'appréciation. Et puis surtout, et c'est là où, pour ma part, je me refuse à crier haro contre Gulen en tant que responsable du coup d'État, c'est que le mouvement de Gulen est un mouvement de la société civile. C'est un mouvement qui a des ramifications, parfois un peu tentaculaires d'ailleurs. C'est assez impressionnant, mais qui donc a des antennes dans la société civile. Et je pense qu'ils comprennent les évolutions de cette société. Or, il y a quelque chose que les putschistes n'ont pas du tout compris, c'est que la Turquie, elle a changé. Elle a d'ailleurs changé en partie grâce à l'AKP de M. Erdogan depuis une quinzaine d'années. Et que désormais, une grande majorité des citoyens turcs ne veulent plus d'intervention de l'armée dans le jeu politique. Et c'est plutôt une preuve de maturité.
Plus de coup d'État comme dans les années
80. Donc c'est une preuve de maturation démocratique. Tout à fait positive. Donc les putschistes ont fait une double erreur, tragique. Mais il y a eu une véritable tentative de coup d'État. Donc je puis comprendre que l'État se défende, résiste, mais là ça va beaucoup trop loin pour toutes les raisons qui ont été particulièrement bien exposées dans le reportage. C'est-à-dire qu'on, je crois que c'est une expression que Eric Biegla utilise, on ratisse large. beaucoup trop large.
Est-ce qu'il y a un risque, Eric, d'affaiblir justement les institutions, l'armée notamment, à cause de ces purges, ou la justice d'ailleurs?
Ah bah, y a certains ministères qui de toute façon sont totalement à poil, passez-moi l'expression, mais le ministère de l'Intérieur, le nombre de policiers qui ont été démis, les juges, les procureurs, les parquets sont nus. Le roi Erdogan est un peu nu. Quant à l'armée, on a quand même la moitié des généraux du pays qui sont mis à pied. On m'a dit que 240 pilotes de chasse, enfin pilotes, disons, militaires, ont été pareillement mis à pied. La Turquie doit compter à peu près 400 aéronefs. Vous avez la moitié de l'armée de l'air qui n'y a plus de pilotes. Il y a beaucoup de choses là qui partent en morceaux. C'est assez étrange d'ailleurs.
Comment interpréter ça,
précision, oui, Guillaume. 27% de la magistrature a été limogée. La rentrée judiciaire en Turquie, c'était hier, 1er septembre. Vous imaginez ce que ça signifie en termes de fonctionnement du quotidien de la justice. Deuxièmement, sur l'armée, 45-46% des généraux qui sont limogés. Oui, mais nous sommes en Turquie, ça ne vous a pas échappé. À la frontière de la Turquie, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a l'Iran, il y a le Caucase. Nous savons que le terrorisme, ou les terroristes plus exactement, l'État islamique, le PKK, sont en train de multiplier les attentats. Il y en a eu 9 majeurs depuis un an et un mois, depuis 13 mois. Donc l'armée est affaiblie dans une situation où la Turquie a besoin d'une institution militaire forte. Parce que la région est en pleine turbulence, en plein chaos. Donc il y a quelque inquiétude à se faire pour l'avenir semaines à venir.
Et effectivement, on continue à se poser la question de savoir pourquoi il affaiblit ainsi son armée dans cette situation. Mais ce sera sans doute l'objet d'une émission toute prochaine, Didier Billon, sauf si vous voulez me le dire en quelques secondes.
Bah en quelques secondes, on peut constater que l'opération militaire qui a été initiée il y a maintenant 9 jours,
en Syrie,
est aussi probablement, indépendamment de la nécessaire lutte contre l'État islamique, mais sûrement un moyen de rassurer l'armée
pour Erdogan. Mais qu'il est bien là, qu'il est bien au commandement.
Non seulement lui, mais il fait confiance à l'armée, car les généraux turcs, quand il s'agit d'aller lutter contre les Kurdes, ne se font en général pas prier.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Didier Billon. Merci à Eric qui signe le reportage réalisé par Annie Brault. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, la commenter sur franceculture.fr. Et puis merci aussi à Lucas Vaillant qui était ce soir à la technique.